Lyon-sur-Mer, Hôtel de la Plage, mercredi 8 mars, 15h30. Vous avez apporté avec vous vos jumelles.
Oui, ce sont des jumelles qui appartenaient à mon père. On m'a donné après sa mort, qu'il les tenait lui-même de mon... le plus jeune frère de ma mère, donc son beau-frère, qui lui est mort en déportation, qui les tenait lui-même d'un de ses camarades, je crois, de Saint-Cyr. Je crois qu'elle date d'à peu près des années 20-30, je crois. Voilà. Donc je les ai le plus souvent avec moi, malgré leur lourdeur. Elles sont avant tout pour moi les jumelles de cet oncle, donc ce plus jeune oncle, qui était un peu pour nous comme une sorte de frère aîné, donc qui est entré dans la résistance, dans le réseau de, important de son frère, qui est donc un autre de mes oncles, qui était aussi mon parrain, réseau qui s'appelait Défense de la France, et dont on fait partie plusieurs personnes qui sont toujours de ce monde, des personnes considérables, et donc ce jeune oncle faisait partie de ce réseau, il a été arrêté avec une autre de mes tantes, sœur de mon père cette fois-ci. Ils ont été arrêtés ensemble, je crois, rue du Cherche-Midi, et ils ont été assez rapidement, je crois, déportés, en passant comme tous les déportés par Compiègne. Et mon oncle est allé à... Enfin, on a conduit mon oncle à Oranienburg-Sachsenhausen, donc près de Berlin. Et ma tante a été envoyée au camp de Ravensbrück, camp qui illustre beaucoup par les traitements et par les personnes qui sont, les êtres humains qui sont passés, dont certains peuvent encore témoigner. Voilà. Et mon oncle, lui, est mort au bout d'une année, je crois, une année et demie, très jeune donc, à Oranienburg-Sachsenhausen. Et ma tante a été sauvée par les Russes en 44, je crois, au moment de l'avancée des Russes. Voilà. Elle est revenue chez nous par Odessa, Istanbul, et voilà. Elle vit toujours. Très bien.
C'est à cet oncle qu'est dédié le tombeau pour 500
000
soldats.
Cet oncle qui avait été élevé par ma mère, qui était l'aînée d'une très nombreuse famille. Ma grand-mère maternelle étant morte très tôt, c'est ma mère donc qui a élevé, avec son père en quelque sorte, qui a élevé tous ses frères et sœurs, dont le tout dernier, qui est mort à 22-23 ans, je crois, qui était un peu comme je l'ai dit, comme une sorte de frère aîné, que j'ai vu, moi, c'est mon premier souvenir d'enfant, je l'ai vu passer chez nous, donc dans le Vivarais, dans la montagne, en 43. Au fond, peut-être quelques semaines avant son arrestation. Et je me souviens très bien de lui. J'avais donc 3 ans, donc à ce moment-là.
Cette dédicace donne une indication sur la nature du livre. Est-ce que vous établissez un rapport entre un livre comme Tombeau pour 500 000 soldats et, à travers votre oncle, les morts en camp de concentration.
C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que j'ai ajouté cette dédicace quand le livre a été repris en collection de poche dans l'imaginaire, une collection relativement prestigieuse, qu'il était à l'époque en tout cas. Et j'y pensais depuis un certain temps, et je pensais que ce livre étant très marqué quand même par l'histoire, hein, on en a un peu limité à l'époque la portée historique, enfin, en la réduisant à la seule guerre d'Algérie, ce qui était absurde. Donc c'était une façon, cette dédicace, donc, à une époque particulière de ma vie, en 1980, à une époque particulièrement dure. D'abord c'était un moment de recul sur ce livre. Cette nouvelle édition d'une collection différente était déjà, je me retournais déjà sur cette œuvre-là. Je ne l'ai pas lu à ce moment-là, du reste. Mais il m'apparaissait tout à fait normal de la dédié, c'est dédié aux membres de cette nombreuse famille des deux côtés, qui, me semble-t-il, avait, disons, dans les temps relativement récents, avait été le plus violemment en contact avec l'histoire. Et avec quelle histoire, tout de même? Une sorte d'histoire dans l'histoire, d'une certaine façon. Toute l'histoire nazie, qui est une histoire dans l'histoire, je crois qu'on ne le dira pas, on n'en aura jamais assez. Donc, je trouvais tout à fait normal, et aussi parce que dédier un livre, c'est un hommage, mais j'aime pas beaucoup le terme d'hommage. Le mot hommage m'exaspère, je pense qu'il faut... C'était pour moi une façon de l'intégrer à ce livre violent, pas dur, mais violent et par certains côtés cruel, comme l'est toute œuvre de grande jeunesse. Et je trouvais que c'était une nouvelle façon de le, en quelque sorte, de... Bon, ça peut paraître un petit peu sentimental ce que je dis, mais de le bercer, en quelque sorte. De bercer ces restes que nous n'avons pas, bien entendu. Donc quelque chose qui était fait par quelqu'un de sa famille, qui n'aurait peut-être pas approuvé du tout, peu importe. Mais je trouve qu'une dédicace est une façon de... Surtout s'agissant d'un être humain mort, c'est une façon de le recaresser en quelque sorte, de compléter et de toujours compléter ce qui est tout de même une constante et ce qui est tout de même la seule chose qui compte au fond dans l'aventure humaine, et je dirais même l'aventure animale aussi, l'aventure de la vie, disons des êtres vivant sur pattes ou sur je ne sais quoi, c'est au fond la caresse, c'est l'étreinte, la caresse. Donc chaque fois qu'on peut le faire, et je trouve qu'une dédier un livre, c'est une façon de le faire, de caresser et même de réenvelopper dans un linceul qui n'a pas eu, bien entendu, en quelque sorte, d'autant plus un être humain, d'autant plus dépourvu dans sa mort de toute caresse, de toute étreinte, de toute majesté, de toute et de tout ensevelissement en plus. Car c'était un camp où il y avait, on l'a un peu oublié aussi, il y avait une chambre à gaz et un crématoire. Il y avait une chambre à gaz à Ravensbrück, il y avait une chambre à gaz à Oranienburg-Sachsenhausen, et dans chacun des camps, il y avait des crématoires. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et ce n'était pourtant pas des camps destinés spécialement à l'extermination. Mais il y avait toujours, dans tous ces grands camps, hein, je ne dis pas tous, ces grands camps, cette strate de l'extermination. J'y suis allé, du reste, j'étais le premier membre de la famille à y être allé en 90.
Vous employez ce verbe qui est assez étonnant, qui est le verbe « bercer », surtout quand on pense aux événements auxquels il s'applique. Dans « Explication », justement, donc ce livre qui accompagne la sortie de « Progéniture », vous dites à un moment « J'aimerais qu'on lise « Progéniture » comme une suite de berceuses ».
Oui, quelquefois, je dis « quelquefois » comme une suite de berceuses, oui.
Quels sont les événements ou les éléments que Progéniture berce?
Ben, si on ne berce pas ces figures, qui le fera? Je pense que la langue les berce, c'est-à-dire le rythme les berce. Si je parle toujours du rythme depuis tant d'années, c'est parce que d'abord la langue française en est, langue française actuelle, hein, si plate, sur quoi je ne veux pas m'étendre plus longtemps. C'est une évidence, mon désir étant de redonner à cette langue du rythme. C'est pas forcément du rythme, un rythme saccadé, un rythme violent, pas du tout, du rythme. Bon. Donc il est évident que, contrairement à ce qu'on croit, le rythme, c'est aussi le rythme lent. Il n'y a pas qu'un seul rythme, le rythme rapide ou le rythme violent. Il y a plusieurs raisons à cette à cette phrase de progéniture. D'abord, oui, ce sont des figures qu'il faut bercer. D'abord parce que la plupart des figures sont des figures qui n'existent pas, qui n'ont pas d'existence légale, ni même d'existence, si je puis dire, ontologique. Hein, ce sont les putains. Et ils n'ont pas d'existence, ces êtres, mâles ou femelles, n'ont d'autre existence que... comment dirais-je, je dis que ce sont des anges musiciens. C'est-à-dire que ce sont les propagateurs et les stimulateurs du verbe des humains, des autres. Le verbe des humains stimule le leur, mais ce sont eux vraiment qui lancent le verbe. Donc ce sont des figures à verbe. Donc elles n'ont pas d'existence. Elles ne meurent pratiquement pas, du reste. Enfin, elles disparaissent. Leurs dépouilles sont pratiquement imputrescibles. Et ce sont des dépouilles que les animaux n'attaquent pas, par exemple. Car ces êtres sont hiérarchiquement, malgré leur inexistence, sont plus bas que les animaux. Dans progéniture, il y a toute une hiérarchie. Dans progéniture, de toute façon, cette notion de berceuse concerne toutes les figures. Les figures ontologiquement existantes et ontologiquement inexistantes. Parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Quand on lance dans l'existence des figures nouvelles, on fait exactement comme fait une mère de famille. Ce sont des figures qui sont fraîches, qui sont fragiles, qu'il faut donc envelopper, qu'il faut recouvrir. Je les dénude beaucoup, mais je les revais de beaucoup de crasse par ailleurs, donc beaucoup de défroques et de choses comme ça, et d'étreinte, car l'étreinte habille, enfin, vêt un être humain, même, ou une figure d'apparence humaine. Nous sommes habillés parce que nous sommes fragiles. Fragiles non seulement à cause de l'intempérie, mais fragiles, évidemment, organiquement, et fragiles ontologiquement aussi. Si l'on considère que nous sommes que ce qu'on nous a appris pendant tellement longtemps, que nous sommes des créatures de Dieu, il est évident que nous sommes des créatures fragiles tout de même. Nous sommes jetés dans le monde, sur la terre, en état de grande fragilité. Donc l'habillement, c'est peut-être aussi ça. Habiller la nudité, c'est l'image même de la fragilité de la créature. Comment dirais-je, sorti du regard immédiat de Dieu. Le regard de Dieu, bien entendu, habille la créature quand Dieu est proche. Mais dès l'instant que Dieu éloigne de lui sa créature, c'est ce qui, en principe, se serait passé tout de même dans la chute. On éloigne, on éloigne du lieu en principe. De la réserve, l'Éden. L'Éden, c'est la réserve de créatures humaines directes.
Forget. me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Then you and I came wandering by, and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.
Que Progéniture décrit et qui est un monde violent, enfin un monde qui est souvent de larmes et de cris. Vous dites que c'est un monde qui est soumis à la menace de l'égorgement.
Ah oui, mais ça c'est le, mais ça c'est ce que je... c'est ça c'est la réalité. C'est une réalité. Hein? Il y a quelques réalités comme ça. Quelques réalités qui sont cernables. Au plan du réalisme, il y a la misère, bien entendu, le massacre, la guerre, enfin le massacre, c'est-à-dire la guerre civile, la guerre religieuse, beaucoup la guerre religieuse, bien entendu. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de... Oui, la misère, la faim, bien entendu, mais la faim, c'est pas nouveau chez moi, c'est une hantise... J'ai une hantise permanente, depuis même avant Tombeau, c'est-à-dire avant les années même... Avant les années 60.
Ce qui est étonnant, c'est que justement, à travers que ce monde est aussi traversé par une sorte de rire. Il y a un rire qui parcourt et soulève l'ensemble du texte.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas... Il y a ces réalités fortes de la misère et de la misère, de l'extrême pauvreté ou du dénuement, de la faim et du massacre. Essentiellement d'ordre religieux, comment ne pas aujourd'hui être tout de même... Je n'ai pas attendu les massacres religieux actuels pour, si je puis dire, hélas, massacrer dans l'œuvre que j'ai pu faire. Mais il est évident qu'aujourd'hui, les massacres les plus spectaculaires, les plus, de certaine façon, les plus révoltants aussi, les plus profondément inexplicables, explicables pourtant, bien entendu, sont d'origine religieuse. Enfin, ceux du moins dont nous avons la formation. Que ce soit au Timor oriental, ou maintenant au Nigeria, ou en Algérie, dans l'ex-Yougoslavie, en Tchétchénie, c'est pareil. C'est toujours... Enfin, c'est à nouveau des massacres d'ordre religieux. Et c'est souvent les plus terribles. Car ce sont souvent les plus archaïques aussi. Les plus archaïquement réalisés. Mais il n'y a pas d'autre turpitude, si je peux dire. Il y a la faim, l'expulsion du logement, très important. Toutes mes obsessions sont là. Le logement, la faim, et effectivement l'égorgement, la crasse liée à l'exiguïté du logement et à la mauvaise qualité du logement, par exemple. Hein. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres complications, si je peux dire. Ce ne sont pas des complications, ce sont des dénuements. Hein. Ce sont des masses. mais il n'y a pas de complications psychosociales, si je peux dire. Voilà. C'est pour ça aussi que le discours est si libre aussi. Car si notre discours n'est pas libre dans la vie, n'est pas aussi libre, mais c'est une œuvre d'art, il s'agit pas du... Il est bien connu que c'est dans l'art que les êtres humains ont exprimé leur liberté. C'est clair. C'est pas dans la vie courante qu'on peut exprimer sa liberté. Quelqu'un qui exprime sa liberté dans la vie courante, il est immédiatement arrêté, emprisonné. Donc là, le verbe est libre, et il est vraiment très libre, à tout point de vue, parce qu'il n'y a pas cette structure. Il y a des éléments simples, quasiment presque mélodramatiques. Le père trompé, le père de famille trompé, la famille nombreuse, la misère, etc. Mais des choses à partir desquelles on peut parler librement, qui sont des situations tellement simples qu'elles engendrent un discours simple, simple, évidemment très fort aussi, lyrique, épique, etc.
Just a worried old rounder with a troublesome mind. Just a worried old rounder with a troublesome mind. All bundled up from hardship, fate to me had been unkind. I wouldn't listen to my mother, wouldn't listen to my dad. I wouldn't listen to my mother, wouldn't listen to my dad. And by my reckless living, I put myself in bed. I wouldn't listen to nobody's headlong, wouldn't hear what nobody said. Mama talked to me all the time, but I just a real child wouldn't listen to her. I ain't trusting nobody, I'm afraid of myself. I ain't trusting nobody, I'm afraid of myself. I've been too low down, lies have put me on the ship. My friend had turned against me, smiling in my face. My friend had turned against me, smiling in my face. Since I've been so distant, beat on, I'm a traveling in disgrace. I cannot shun the devil, he stays right by my side. I cannot shun the devil, he stays right by my side. There is no way to cheat him, I'm so dissatisfied. Ain't nobody wants me, they wouldn't be in my shoes. Ain't nobody wants me, they wouldn't be in my shoes. I feel so disgusted, I got them low down round the beach.
Dès l'instant qu'on n'a plus une conception énergétique de l'être humain, dès l'instant qu'on ne pense plus le monde comme énergie, il est bien évident que la notion de grandeur de l'homme ne peut plus rentrer dans ce monde, d'où cette notion d'énergie, de passage d'énergie, a disparu. Car une vie humaine, c'est une énergie qui se déploie comme elle peut, dans un temps donné. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense beaucoup quand même l'être humain comme catalogué, classé. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est ce délire scientiste du 19e siècle qui touchait donc la matière, extérieur à l'homme, les animaux, etc., qui a touché l'homme, hélas, parce que c'est de là que est parti le, qu'est sorti le racisme scientifique. Je trouve que cette vieille chose se perpétue aujourd'hui dans cette incapacité à saisir l'homme, l'être humain qui apparaît, l'enfant, le bébé, l'enfant, l'adulte, etc., comme une énergie à part entière, indissociable des autres, des autres énergies, mais absolument irremplaçable, et qui pourrait même fonctionner toute seule, si je peux dire. C'est ça qu'il faut penser. Sans les autres autour. Ça serait impossible, mais il faut aussi penser à ça. Et donc je trouve que on est encore dans une logique de classement, donc de casier, comme on dit, de nomenclature, dont il ne faut pas sortir. Alors qu'un être humain, c'est comme toute vie au monde, c'est une vie absolument insaisissable.
Mais cette énergie qui se déploie ne se déploie pas dans un monde qui est vide, elle rencontre aussi d'autres énergies.
Mais oui, mais c'est un monde qui n'est que de l'énergie, aussi.
Et donc elle est obligée aussi de traiter avec les autres énergies.
Oui, bien sûr, mais ça, nous sommes tout à fait d'accord, bien entendu. Mais déjà, savoir ça, c'est déjà très important. Et c'est même une vision qui n'est pas si facile que ça, c'est une vision tragique de l'existence, finalement. Car qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les êtres humains? Je voyais tout à l'heure, par exemple, cet enfant avec son chien. Il avait ses relais et il tirait son chien, un très jeune chien. J'ai vu à l'instant là, je voyais, ils se sont arrêtés tous les deux, et le chien léchait, embrassait cet enfant, etc. C'était extraordinairement émouvant. C'était deux êtres autonomes, mais aussi indissociables. Il y avait dans cette recherche de caresse de l'un à l'autre quelque chose de formidablement poignant. Je pense qu'on a vraiment, avoir vraiment la vision de l'unicité de l'être humain, fût-il le plus humble, un petit chien, n'est pas si humble que ça pour moi, hein, vous savez. C'est la vision d'une solitude aussi. C'est-à-dire d'une solitude. Quelle solitude que ces corps humains, tout de même. Ça n'a pas été dit par un Allemand, pour une fois, ça a été dit par un Français qui était, on ne peut plus classique, bien que romantique, qui était Musset. Hein? C'est dans le Ranzasio, je crois, ou dans Fantasio, je ne sais pas. Bref.
Et ce côté
qui dit solitude dit énergie autonome, ouais. Énergie personnelle, individuelle, libre en principe. Libre et donc fragile, soumise... enfin nu devant la matière.
Libre, c'est être aussi fragile et soumise, mais c'est aussi être dangereux. Pouvoir aussi porter atteinte.
Ah mais bien sûr, mais ça, bien entendu. Non, mais cette question-là de la société ne doit pas, c'est une question tout à fait sympathique et honorable de la société. La liberté de l'un s'arrête là où la liberté d'autre compte. C'est très bien tout ça. Mais ça, ces choses-là permettent aussi de faire oublier, de faire oublier aussi aux générations qui viennent, que l'être humain a un droit aussi. Qu'un enfant puisse savoir qu'il a le droit de vivre. Moi, j'ai été élevé dans une toute autre vision du monde. Hein, et j'en fais les frais tous les jours. J'ai eu aussi de très bonnes leçons, par ailleurs, de bons exemples. Mais de ça, je fais les frais tous les jours, vraiment. C'est pour ça que j'ai peut-être une vision de cette liberté. Je voyais cet enfant tout à l'heure, par exemple. Liberté peut-être peut-être une vision très accentuée. C'est possible. Moi, j'ai eu à conquérir cette liberté simple. D'avoir le droit de vivre. De vivre, c'est-à-dire de vivre... Oui, d'exister, déjà.
Vous avez le sentiment que vous ne l'aviez pas, ce droit ?
Non, je ne l'avais pas. Malgré tout le discours autour. Parce que je suis né dans une famille catholique, catholique pas du tout dévote, et pratiquante moyennement, et profonde pas du tout, et profonde et libre en même temps, hein, et amusante, et fine et tout, et pas du tout, d'abord très modeste, hein, financièrement parlant, et matériellement parlant, malgré des origines relativement élevées, élevées comme on dit, mais je n'ai pas du tout... l'éducation dans le dans une foi donnée, qu'elle soit catholique, islamique ou autre, dans cette éducation-là, le droit de vivre, toutes ces notions qui sont des notions, au fond, je ne dis pas laïques, mais des notions humaines quand même, qui sont pas récentes du tout. C'est pas du tout la Révolution française qui a amené ça, bien entendu. Ce sont des notions qui sont, ou alors considérées comme allant de soi, ou alors des notions dont on ne parle pas. Car si on commence à en parler, c'est indiquer à l'enfant une voilà, indiquer un peu comme l'arbre de la connaissance, si je peux dire. On n'a pas à utiliser des mots qui peuvent donner des idées, certaines idées, aux enfants. Les enfants sont suffisamment malins pour les trouver tout seuls, mais mieux vaut ne pas leur indiquer les mots et donc le chemin pour y aller.